entre guillemets, qui est visible, mais dans la formation, dans la recherche sur le paludisme, par exemple l'évaluation du traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, on a montré que le traitement était toujours efficace, quand on sait que dans certains pays, on observe une diminution de cette efficacité. En gros, je dirais les succès scientifiques, évidemment les publications, bon je ne rentre pas dans les détails, mais nous publions dans les meilleurs journaux, donc il y a un travail de pointe de très haute qualité qui est conduit par la Fondation et qui est publié donc dans les journaux scientifiques mondiaux de très très bonne qualité dans les meilleurs journaux en 10 ans. Donc il montre quand même qu'on a eu une progression vraiment très rapide.
Ça ne doit pas être très facile d'exécuter vos projets. Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour mener à bien tous les projets que vous avez dans la Fondation ?
Il faut regarder la Fondation comme le fameux Institut Pasteur de Paris. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que l'Institut Pasteur de Paris est une fondation qui conduit des activités de recherche. Nous avons copié en fait ce modèle, mais nous avons gardé le nom de fondation, mais on aurait pu donner un autre nom. Ça, c'est un premier point. Ce qui nous permet de conduire nos activités, nous recherchons des financements, nous écrivons des projets, nous allons chercher ces financements à l'international ou chez des bailleurs de fonds privés qui sont intéressés à soutenir la recherche, et il y en a beaucoup. Et quand nous avons ces financements, nous conduisons ces activités au Congo. Donc, nous faisons exactement la même chose que ce qui est fait ailleurs, mais nous le faisons au Congo avec la même rigueur que cela pourrait être fait en Allemagne ou en France ou aux États-Unis. Ce qui fait que nous avons la confiance des bailleurs de fonds pour continuer à conduire des activités de recherche, puisque les gens nous font confiance en nous donnant de l'argent pour donner des réponses à des questions qui permettent de soulager la population congolaise ou la population mondiale, puisque les recherches que nous conduisons permettent aussi de mieux comprendre la maladie où qu'elle soit.
On sait que la Fondation travaille beaucoup sur le paludisme. Quel est l'intérêt pour vous de travailler sur le paludisme ou de mener des recherches sur le paludisme ?
Parce que le paludisme est quand même l'une de nos premières maladies. Hein. Je crois que tout Congolais qui naît, la première maladie dont il entend le nom, c'est le paludisme. Hein. Même s'il ne sait pas paludisme et moustique. Je crois que l'association est faite très vite au sein de la population. Mais tout simplement parce que c'était la plus grande tueuse hein, sur le continent et au Congo. Donc, en tant que scientifique congolaise intéressée par les maladies infectieuses, quand j'ai voulu me lancer dans la recherche, ça a été effectivement le premier centre d'intérêt. Et essayer de comprendre pourquoi on n'arrivait pas à trouver de solution pour cette maladie. Où étaient les défis par rapport à cette maladie ? Au cours de ma formation à l'étranger, j'ai travaillé sur le paludisme et en rentrant au Congo, j'ai commencé par développer des activités dans cette maladie afin de comprendre la maladie, le profil épidémiologique de la maladie au Congo, qu'il varie, il change hein, au cours des années et donc c'est important que les chercheurs congolais puissent décrire la situation.
Dans quelle mesure vos recherches sur le palud ont contribué au traitement du paludisme ou bien à la situation du paludisme au Congo, voire en Afrique?
Les activités de recherche que l'on conduit, même si elles sont quelquefois opérationnelles, il n'est pas évident d'en voir le reflet dans les mois, voire dans l'année, voire dans les 2-5 années qui suivent. Il faut toujours bien comprendre que la recherche est un plat qui se mange froid. Mais toujours est-il que les résultats que nous avons pu montrer en recherche opérationnelle, c'est par exemple la résistance des parasites. Ça, c'est quelque chose dont le programme national de lutte contre cette maladie peut utiliser tout de suite les résultats. Nous avons montré le niveau de résistance des parasites aux antipaludiques. C'est un exercice que nous faisons régulièrement et nos résultats sont donnés au programme national de lutte contre le paludisme. Ça, ce sont des résultats, entre guillemets, que l'on peut utiliser très rapidement.
Les résultats de vos recherches médicales sont-elles utilisés aussitôt après leur publication ou bien il faut attendre? Et si tel est le cas, combien de temps faut-il attendre pour que ces résultats soient utilisés?
Un changement de politique de traitement ne peut pas être fait aussi vite. Par exemple, si le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, on montre qu'il ne marche pas, ça ne veut pas dire que dans l'année qui suit, ce traitement va être changé. Non, il faut que les autorités prennent du recul, échangent avec l'OMS avant de décidé de changer de politique. Mais nos résultats sont pris en compte, ainsi que les résultats d'autres collègues sur d'autres profils épidémiologiques pour analyser et comprendre la maladie. Donc c'est important localement, mais c'est mis aussi en perspective avec les résultats des autres ailleurs.
Merci beaucoup. Actuellement, vous travaillez aussi sur la tuberculose bovine. Pourquoi une telle préoccupation ?
Là, parce que nous avons un financement sur un projet « Une seule santé ». Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de maladies virales qui nous affectent, nous les humains, et qui viennent de l'animal. Moustiques, chauves-souris, porcs,
les cafards.
Voilà, exactement. Donc, c'est important de comprendre qu'une bactérie comme Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, qui se retrouve chez le bœuf, nous consommons du bœuf. Quel peut être l'impact si nous consommons du bœuf infecté? Donc, c'est important. Et déjà, de savoir quel est le niveau d'infection. Nous n'avons pas trouvé de publication là-dessus. Ce qui veut dire que les vétérinaires, je suppose, valident la viande qui est vendue dans les boucheries. Mais toujours est-il qu'en tant que scientifique, connaissant à quel point l'interface homme-animal est fine et que nous travaillons sur la tuberculose, nous voulions bien comprendre quel est le niveau déjà d'infection des animaux pour voir ensuite, quelle est l'infection au niveau des personnels? Ça, c'est une étude en cours.
Est-ce que votre étude inclut aussi les personnes qui travaillent avec les animaux, vu que ces personnes entretiennent une interaction vraiment directe avec les animaux?
On va regarder aussi les personnels qui travaillent sur ces animaux, leur niveau d'infection, et ensuite l'infection auprès de leur famille, voire l'infection et la propagation de cette infection. Ça, ce sont des données extrêmement importantes. Il y a des bœufs qui viennent du Tchad, des pays limitrophes. Sont-ils infectés ou non? Qu'est-ce qui rentre chez nous, pas que en termes d'animaux, mais en termes de virus? Et ça, il n'y a pas de données publiées. Et c'est très inquiétant, très, très inquiétant. Quand on sait que beaucoup de maladies virales, encore, je répète, viennent de l'animal, c'est important de savoir ce que nos animaux autour de nous portent comme infection et de suivre ces infections. Donc, nous débutons et nous formons des vétérinaires à la recherche et des étudiants. Voilà, c'est un programme extrêmement excitant que nous avons débuté cette année avec l'IRA, l'Institut de recherche agronomique.
Est-ce que vous pensez que la recherche est assez présente dans les politiques de développement et des plans d'action des acteurs au développement, non seulement au Congo, mais aussi dans toute l'Afrique?
Ma réponse sera non, bien entendu. C'est à peine des fois moins de 1% du budget qui est alloué à la recherche, donc ou à la recherche en santé. Bon, non, c'est des budgets dérisoires et qui ne répondent absolument pas aux besoins du continent. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que aussi la Fondation congolaise pour la recherche, d'autre part, a pour but de faire la promotion de la recherche. Parce que justement, on a souvent l'impression dans nos pays que, OK, la recherche est un produit de luxe, c'est un produit de consommation de luxe. Ce n'est pas pour nous. C'est réservé aux pays riches parce qu'ils en ont les moyens. Mais non, si on veut sortir du sous-développement, il faut que l'on fasse de la recherche. Il faut que l'on passe de l'ère agricole, de l'ère archaïque, on passe à l'ère moderne, à l'industrialisation sur place, à la transformation de nos aliments. Cela passe par la recherche, par la mise en place de nouveaux outils adaptés à notre population, à notre environnement, à notre climat, etc. Et donc, il faut que cette recherche soit conduite par nous. On ne peut pas continuer à consommer de la recherche produite ailleurs et qui n'est pas toujours adaptée à nos besoins et qui nous coûte trop cher et qui n'est pas adaptée encore une fois. Donc c'est extrêmement important et on ne se rend pas compte qu'on va vers le développement quand on verra notre budget recherche augmenter.
Qu'est-ce qui changerait vraiment si les pouvoirs publics s'impliquaient activement dans la recherche scientifique?
Cela montrera qu'effectivement, il y a une réelle volonté politique à aller vers le développement. Autrement, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. La recherche est transversale. Elle va de l'économie, en sciences de la santé, en sciences humaines, en agriculture, dans tous les domaines. Si on met l'accent sur la recherche, tous ces domaines vont se développer parce qu'on va avoir des outils de pointe dans la productivité. On va être beaucoup plus adapté, plus productif, plus performant. Donc j'y crois profondément, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire.
À votre avis, comment peut-on parvenir à intéresser les pouvoirs publics à la recherche médicale, à s'impliquer activement, financièrement, politiquement dans la recherche médicale?
un travail de plaidoyer pour faire comprendre. C'est là notre défi d'abord. Quand les gens auront compris, nos autorités auront compris, alors ils sauront mettre les fonds. Beaucoup de pays ont compris, le Rwanda a compris, regardez comment ce pays se développe. Le Sénégal a compris, regardez comment il se développe. L'Afrique du Sud, n'en parlons pas. Tous les pays qui ont compris cela, le Kenya, tous ces pays, nous voyons très bien qu'ils progressent.
Merci, professeur, d'avoir été notre invité pour cette première partie consacrée à la recherche médicale et à la Fondation congolaise pour la recherche médicale.
Ben, c'est moi qui vous remercie pour cet entretien qui était très, ma foi, très intéressant. Merci beaucoup.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Vous venez de suivre notre interview avec le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire et présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville, en République du Congo. Le professeur Francine Ntoumi est aussi très impliqué dans la formation des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. À présent, nous vous invitons de suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur le paludisme, maladie transmise par des moustiques qui tuent souvent les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Saviez-vous que le café pourrait aider à perdre du poids? C'est dans votre rubrique « Conseils et astuces ». Il est dit que les femmes ont des sautes d'humeur au moment des menstrues. Nous avons recueilli votre avis. Enfin, les chercheurs font une avancée considérable dans le dépistage de la fibromyalgie. C'est dans cette édition de Carnet de santé.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le paludisme est une maladie parasitaire potentiellement mortelle. Transmise à l'homme par des piqûres de moustiques, cette maladie cause plus de 400 000 décès par an. L'Afrique est le continent qui paye le plus lourd tribut de la malaria, avec à elle seule 90% des décès, en majorité les enfants de moins de 5 ans. Au cours des 10 dernières années, le monde a considérablement progressé dans l'élimination du taux de mortalité et des infections causées par le paludisme. Mais dans certaines régions, les progrès ont ralenti, selon l'Organisation mondiale de la santé. Sheila Pony s'est intéressée à la question au Soudan du Sud, où le paludisme pourrait trouver une nouvelle base à cause des années de conflits et des conditions environnementales.
Au Soudan du Sud, le paludisme est la principale cause de maladies et de décès chez les enfants de moins de 5 ans.
Depuis le début de l'année, nous avons constaté qu'un certain nombre de comtés ont enregistré une augmentation des cas de paludisme supérieure à la normale par rapport à ce qu'ils avaient rapporté les années précédentes. Ainsi, à partir de nos rapports hebdomadaires, 25 comtés ont été identifiés comme ayant un nombre accru de cas de paludisme par rapport aux années précédentes.
Alors que le Soudan du Sud entre dans l'apogée de la saison des pluies de cette année, c'est une situation que des mères telles que Faïda Samimi et sa fille de 9 mois vivent, mais ont du mal à comprendre.
J'ai amené ma fille à l'hôpital parce que son corps était affaibli. Elle vomissait et avait la diarrhée. Et on m'a dit qu'elle avait le paludisme. Je ne sais vraiment pas quoi faire à propos de ce paludisme.
Pour en savoir davantage sur le paludisme, nous joignons par Skype à Genève, en Suisse, le docteur Abdourahmane Diallo, CEO du partenariat RBM pour en finir avec le paludisme. Docteur Diallo, merci d'être avec nous.
Merci de m'avoir dans votre émission. Je suis vraiment content que vous me donniez l'occasion de partager notre point de vue.
La commission lancée a publié un rapport récemment appelé « Éradication du paludisme en une génération », ambitieux, réalisable et nécessaire. Alors, comment réagissez-vous au rapport selon lequel la vision d'un monde sans paludisme est possible ?
Nous accueillons la publication du rapport de la commission Lancet avec beaucoup d'enthousiasme parce que vraiment nous partageons la vision exprimée dans ce rapport qui clairement dit que l'éradication du paludisme est possible pendant le temps d'une génération, ce que vraiment nous partageons. Vous savez, quand on regarde les choses à fond, aujourd'hui, on a plus de pays vraiment qui sont proches de l'élimination qu'avant. Donc vraiment, nous voulons capitaliser sur ce fait et pensons qu'avec le concours des uns et des autres, cela est vraiment réalisable pour nous. En tant que, voilà, nous sommes connus comme RBM, ce qui voulait simplement dire roll back malaria, faire reculer le palu. Et nous croyons tellement à la possibilité donc d'éradiquer le palu que nous avons changé notre nom en Roll Back Malaria Partnership, le partenariat RBM, parce que tout le monde connaissait nos initiales, pour en finir avec le paludisme. Donc c'est dire que vraiment nous l'accueillons avec beaucoup d'enthousiasme et de satisfaction.
Le paludisme continue de faire plus de 400 000 victimes par an, malgré les avancées dans la prévention et la prise en charge. Docteur Diallo, quels sont les défis actuels ?
Tout à fait, vous avez absolument raison. Malheureusement, le continent africain et particulièrement l'Afrique subsaharienne continue à payer le plus lourd tribut vraiment de la problématique du paludisme. Des 11 pays les plus atteints du paludisme, aujourd'hui 10 malheureusement se retrouvent en Afrique. Et parmi lesquels 5 sont francophones. Donc cela dit, la communauté internationale de lutte contre le paludisme n'est pas restée les bras croisés. Le partenariat RBM pour en finir le paludisme, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, ont lancé une approche, une initiative pour justement aider ces pays-là à revenir sur le bon chemin. Cette initiative s'appuie sur 4 éléments fondamentaux. Le premier étant vraiment le renforcement de leadership dans ces pays donc, qui sont les plus atteints pour, n'est-ce pas, accompagner la mobilisation interne de ressources qui viendra s'ajouter à celle des partenaires donc étrangers déjà. Naturellement, il nous faut donc les bonnes politiques, les bonnes stratégies, les bons outils, les bonnes informations qui pour permettre au pays de vraiment se prendre en charge. Voilà en quelques mots les éléments de cette initiative que nous appelons en anglais tout bêtement High Burden to High Impact. Donc d'un fardeau lourd à un fort impact en quelque sorte.
Et selon vous, quelle est la plus grande menace pour l'élimination du paludisme d'ici 2050 et comment peut-on y remédier ?
Vous avez dit une, il y en a quelques-unes, mais moi je voudrais juste mettre l'accent sur quand même, disons, un défi, hein, un défi particulier. Donc si vous regardez les données dont on dispose aujourd'hui, sincèrement, jusque-là, les outils, les moyens, les approches, les stratégies que nous avons utilisées, que l'ensemble de la communauté qui lutte contre le palu donc a utilisé, ont plus ou moins marché. Voilà pourquoi nous avons abouti au résultat auquel nous avons abouti. Cependant, vraiment, il y a quelques inquiétudes. L'élément fondamental, c'est le financement. Il est fondamental qu'il y ait un financement continu, augmenté, soutenu, pour pouvoir vraiment arriver au but que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire le temps d'une génération de voir le palu disparaître. Nous n'y arriverons pas si nous n'avons pas le niveau de financement requis.
Docteur Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que le docteur Abdourahmane Diallo est CEO du partenariat RBM pour en finir avec le paludisme. Si vous aimez consommer du café au réveil, à la pause goûter ou à la fin d'un dîner, j'ai pour vous une très bonne nouvelle. Le café peut vous aider à perdre du poids. Selon une étude publiée par le site des Instituts nationaux de santé des États-Unis, le café est propice au développement du métabolisme du fait de sa forte teneur en caféine. Selon cette étude, une consommation régulière et modérée en café noir augmente de façon conséquente le taux métabolique aussi bien chez les personnes obèses que chez les sujets ayant une corpulence normale. De plus, le café facilite la digestion en augmentant la sécrétion des enzymes digestives telles que les amylases, la lipase et la pepsine. D'après cette même étude, la caféine contenue dans le café augmenterait le phénomène de la thermogenèse. Traduction, votre corps brûle plus de matières grasses excédentaires, même au repos. Mais attention à la consommation de sucre dans votre café. Il peut avoir des effets négatifs sur l'organisme, selon des experts en nutrition. Alors, consommez avec modération. Les femmes sont souvent accusées de susceptibilité et d'irritabilité avant et pendant leurs règles. Et cela serait dû aux variations hormonales affectant leur corps et esprit. Pensez-vous vraiment que les sautes d'humeur chez certaines femmes sont liées au cycle menstruel? Nous avons recueilli votre avis à Kinshasa.
Oui, ça affecte. Certaines femmes, pendant leurs règles, deviennent nerveuses. Certaines ont mal au corps, certaines se sentent faibles. D'autres même en tombent malades ou perdent l'appétit.
Oui, bien sûr. Elles changent d'attitude. Elles deviennent un peu colériques, mal à l'aise et aussi dépendantes des femmes. Certaines poussent des boutons sur le visage.
Dans son comportement, remarquer qu'il y a une certaine amaigrissement de son pied, de son thé ça maîtrise, la forme ça maîtrise, et puis je trouve également que apparemment elle a une mère beaucoup fâcheuse, et voilà.
Absolument, ça change parce que la femme devient peut-être angoissée, hein, d'une manière ou d'une autre, la périodicité là-bas qui va par exemple de 3 à 7 jours, la menstruation par exemple, la femme est un peu courroucée, est en colère parce que.
Quand une femme a ses règles, la première chose qu'on remarque, c'est sa poitrine qui gonfle. On remarque aussi des boutons sur son visage. Certaines perdent l'appétit pendant le premier jour. Certaines deviennent nerveuses. Elles se fâchent tout le temps.
Des millions de personnes vivent avec la douleur constante causée par la fibromyalgie. C'est un trouble qui est souvent mal diagnostiqué. Et si les tests de laboratoire peuvent aider à identifier de nombreuses maladies, il n'existait jusqu'à récemment aucun test de dépistage de la fibromyalgie. Selon le reportage de Carole Pearson, un simple test sanguin pourrait changer la donne.
Bob Hartung a souffert d'une douleur inexpliquée au corps entier avant d'être diagnostiqué de fibromyalgie.
C'était presque un soulagement parce que j'ai enfin su ce qui n'allait pas avec moi.
La fibromyalgie est un trouble dont les symptômes sont une douleur généralisée, accompagnée des fatigues et des problèmes de sommeil, des mémoires et d'humeur. Les chercheurs pensent qu'avec la fibromyalgie, le cerveau amplifie les signaux de douleur. Environ 75% de personnes atteintes de fibromyalgie ne sont pas diagnostiquées. Certaines personnes vivent avec des douleurs pendant des années. Beaucoup reçoivent un traitement inefficace, voire néfaste.
De nombreux patients qui consomment les opiacés à long terme présentent une fibromyalgie sous-jacente. Donc, si cela était reconnu, nous pourrions alors savoir comment traiter ces personnes de manière appropriée.
Des chercheurs du centre médical Wexner de l'Université d'État de l'Ohio ont mis au point un simple test sanguin permettant de diagnostiquer la fibromyalgie.
Nous utilisons l'infrarouge dans de nombreuses entreprises pour déterminer le taux de protéines, de graisse, d'humidité, d'amidon et de fibres en quelques secondes.
Les chercheurs ont découvert que ce test permet d'analyser les concentrations des produits chimiques dans le sang de la même manière que les molécules présentes dans les aliments. Bien que la fibromyalgie ne soit pas curable, les médicaments, l'exercice et les mesures de réduction du stress peuvent aider à contrôler les symptômes.
Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons du suicide. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Merci de nous avoir suivis. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.
Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté.
Nous voici à la fin de Votre santé, votre avenir. Ce programme portait sur la recherche médicale. Nous en avons discuté avec le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire et présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville en République du Congo. Elle est aussi très impliquée dans la formation des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Ensuite, nous vous avons proposé Carnet de santé avec Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thiero et de Carl Sterling, qui était à la console. Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.